de retour à l'émission d'affaires publiques, l'heure juste à l'antenne de la radio CHGA. Une présentation du service d'information de votre radio CHGA.
La préfète Lamarche le mentionnait il y a un instant sur nos ondes, les conséquences de la réforme apportée dans le domaine de la santé en 2015. Il y a eu une rencontre 15 avril dernier. Depuis ce temps-là, ben justement, on essaie de trouver une solution. On se dit, si la solution ne vient pas du système, on va peut-être profiter, essayer d'en suggérer, nous, en tout cas, essayer de voir ce qu'on peut faire, comment ça se vit, essayer dresser le portrait, essayer d'avoir des munitions, finalement, pour arriver à nos fins là-dedans, parce que c'est, au final, c'est les services offerts à la population qui en souffre. On a au bout du fil Dr. Audrey Bertrand, médecin de famille dans la vallée de la Gatineau, qui est impliqué dans cette démarche. Docteur Bertrand, bonjour.
Bonjour, Félix-Antoine, bon midi.
Je suis content de vous avoir au bout du fil parce que justement, on parle souvent avec des gens qui œuvrent dans le domaine politique, mais là, vous êtes sur le terrain, vous voyez, vous savez, en fait, vous connaissez plus que pas mal de gens là, avec qui j'ai déjà parlé de ça, la réalité sur le terrain. Vous êtes leurs yeux un peu là-dedans. Expliquez-nous justement, là, depuis 2015, on parle de perte de décision puis les effets qui s'engendrent. Parlez-nous-en un peu. À quel point ça s'est détérioré?
En fait, Félix-Antoine, je vais parler même pour moi. Là, je veux dire, oui. Je, Dr. Audrey Bertrand, là, moi aujourd'hui, je pense que je suis capable de vous affirmer que les soins de santé qui sont directement desservis aux patients ont été amputés et sont effectivement de moins bonne qualité depuis la centralisation, puis surtout dans les derniers mois. Puis c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire un peu comme une sortie publique puis médiatique, parce que je pense que la population a le droit de savoir, on est rendu là. Puis comme tu dis, le problème, c'est que c'est une grosse machine, hein? C'est une grosse structure, ne serait-ce que le CITO, mais aussi juste l'hôpital en soi à Maniwaki. C'est comme si tout se passait comme un peu à huis clos. On entend toute la détresse, tout le cri du cœur de tous les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, mais c'est comme si la population, elle, voit pas ce qui se passe. Parce que quand le patient vient, là, même si on a coupé 3 infirmières, même s'il y a un paquet de coupures, ben les gens redoublent d'ardeur puis essaient de donner des soins au patient. Alors, le patient, lui, vient, se fait soigner, il rentre à la maison, puis il a eu les soins qu'il pense être adéquats, mais pendant ce temps-là, on a brûlé du monde comme ça se peut pas, puis il y a quand même eu un soin qu'on aurait peut-être pu offrir de plus au patient qu'on n'a pas fait. Ce qui se passe, là, pratico-pratique, là, même dans les dernières semaines, c'est encore pire, évidemment, là, puis on peut pas toujours blâmer le COVID. Là. Il y a le dos large, mais à un moment donné, il faut prendre aussi nos responsabilités. Là. Pratico-pratique, le 3e étage de l'hôpital est fermé. Mm-hmm. C'était l'endroit où il y avait des lits là, où les gens étaient en attente d'être relocalisés, donc soit au CHSLD ou dans des résidences privées. Vendredi passé, c'était la dernière journée de notre travailleuse sociale. Alors, à moins d'une apparition subite, il n'y aura pas de travailleuse sociale jusqu'à un retour de congé de maternité, pardon, qui devrait être autour de décembre. Au 2e étage, actuellement, il y a 6 lits de barré. Alors, on varie entre 10 et 6 lits, mais j'ai confirmé aujourd'hui, on est encore à 6 lits de barré. On m'annonce aussi que pour cet été, pour 8 à 10 semaines, il va y avoir seulement 2 inhalothérapeutes. Les inhalothérapeutes, là, Félix-Antoine, c'est intéressant oui. Parce que ça permet de parler d'autre chose, des infirmières, des médecins, qu'on est toujours un peu à l'avant, là, mais un inhalothérapeute dans un hôpital, c'est essentiel. Ça travaille dans plein de secteurs. Hein. Ça travaille quand on est intubé en chirurgie, ça vient aux soins intensifs, ça vient à l'urgence quand il y a un patient qui est en détresse respiratoire, ça vient sur les étages, puis ça gère aussi tous les patients en soins à domicile qui ont de l'oxygène à domicile puis qui ont des problèmes pulmonaires. Ça veut dire 2 inhalothérapeutes qui peuvent gérer tout ça pendant 8 semaines, c'est impossible. Fait qu'il faut couper. Fait que ça veut dire que là où on va couper, c'est probablement le soin à domicile. Fait que si vous avez de l'oxygène à domicile ou qu'un de vos membres de famille en a, ben sachez que cet été, il ne sera pas vu.
Mais là, pourquoi ça prend une sortie du genre pour que ça bouge? Les gens à bord du bateau, ils ont des œillères, ils ne voient pas ce qui se passe ou ils ne veulent pas voir ce qui se passe ou sont tellement débordés qu'ils ne savent pas quel feu éteindre en premier. Qu'est-ce qui se passe?
Ben effectivement, là, tu sais, je pense que c'est à eux que j'aimerais qu'on pose la question, parce que tu vois, malgré notre sortie médiatique la semaine passée, la réponse a été qu'on va pas changer le système de gestion et qu'effectivement, il y a 23 cadres à temps plein qui travaillent pour Maniwaki. Donc, alors que nous, on lance un cri du cœur puis qu'on dit que l'hôpital, on a l'impression que ça va fermer, qu'on est tellement en train de perdre de personnel puis d'offrir des soins de qualité, de moindre qualité, ben le CISO nous répond probablement que je suis menteuse puis que j'ai probablement pas raison de m'inquiéter parce que j'ai 23-4. Fait que ça, c'est un peu la réponse. Fait que moi, j'avoue être plutôt insultée de la réponse qu'on a eue la semaine passée parce que pendant que nous, on lance un cri de cœur, c'est un peu la réponse qu'on a. C'est extrêmement décevant.
Ben, au lieu de travailler à mettre des efforts à régler le problème, ils essayent de discréditer vos informations, votre prise de position.
Absolument. Ouais. C'est exactement comme ça que je l'ai senti. Puis je suis déçue parce que on met des efforts pour travailler avec eux puis pour trouver des solutions. Tu sais, venir travailler en région. Moi, Félix-Antoine, je suis née sur le même étage où je travaille. Hein. Je suis née ici à Maniwaki. Je suis revenue travailler ici. J'ai fondé ma famille ici. Je travaille encore ici. Alors, la région, je l'ai à cœur. C'est pas juste dire l'hôpital. Là. C'est toute la région. C'est toute la vallée de la Gatineau. Il faut pas oublier que l'hôpital, là, c'est probablement un des plus gros employeurs de la vallée de la Gatineau. Fait qu'il faut comprendre aussi là qu'on est une région qui est défavorisée. Puis il faut travailler pour que les gens qui soient ici restent. S'intègre, soit bien, puis que les gens aussi dépensent ici. Tu sais, c'est une question aussi.
C'est des bons salaires. C'est des bons salaires aussi, oui.
Exactement. Puis quand on dit, bien, on a 23 cadres, bien, quand ces cadres-là, là, ils partent le matin de Gatineau, s'en viennent travailler ici, puis après ça, retournent le soir, là, bien, c'est pas eux qui arrêtent de prendre un verre au rabat.
À part un café au Tim Hortons, non, c'est ça.
au Harry Bambel. Tu sais, ces gens-là, là, c'est pas eux qui permettent non plus de faire de notre région une région qui est quand même. Qui s'épanouit aussi au niveau économique.
Ben, j'ai même.
C'est ça que je l'ai à cœur, tu sais, Félix-Antoine. J'ai l'impression que c'est sur tous les secteurs qu'il faut qu'on crie. Oui, les soins du patient, mais aussi sur la région en soi. Mm-hmm.
C'est intéressant. Puis je l'abordais aussi avec la préfète tout à l'heure. Tu sais, le fait que les employés ne peuvent pas, il y a un omerta, ils peuvent pas parler parce qu'ils vont perdre leur emploi. On en a des fois qui nous écrivent, là. On a leur nom parce qu'ils nous écrivent sur Facebook en privé à la radio, mais ils nous disent, s'il vous plaît, faut pas que mon nom sorte, sinon je perds mon emploi. Nous, on utilise ces informations-là parce qu'on en a besoin, mais je trouve ça terrible. Tu sais, je comprends dans une certaine mesure qu'ils ont un droit de regard, tu sais, il faut qu'ils respectent l'employeur. Mais des fois, on a, tu sais, c'est les soins offerts à papa, à maman, à nos oncles. Tu sais, à un moment donné, faut aller plus loin que ça, là.
Oui, oui, puis c'est pour ça qu'il faut en parler, parce qu'à un moment donné, tu sais, ça se peut qu'il arrive des erreurs, puis ça se peut qu'il se passe des trucs auprès des patients, puis ça, c'est extrêmement malheureux. Puis c'est pour ça que la population a le droit de le savoir. Puis comme tu dis, cette omerta-là, elle est extrêmement triste. Puis pour ça, probablement que j'ai pris ce dossier-là un peu plus à cœur en me disant, ben je vais foncer, puis moi, ben je vais parler. Ça reste qu'on est travailleur autonome. Oui, je travaille dans la grande boîte qui est le CISO, mais sans leur manquer de respect, ben faut quand même nommer les choses puis faut dire ce qui se passe. Quand on a fait la réunion du 15, on a invité tous les membres du CISO qui pouvaient siéger sur cette table-là, là, qu'on pensait que c'était important qu'ils soient là. Malheureusement, ils avaient d'autres réunions en même temps qu'ils ont décidé de privilégier, puis il y a eu seulement deux qui se sont présentés. C'est dommage parce que cette réunion-là, là, Félix-Antoine, c'était vraiment intéressant. Les gens ont vraiment dit personnellement comment ils se sont sentis depuis la centralisation. Puis il n'y avait pas, excuse-moi l'anglicisme, là, mais il n'y avait pas de bashing là-dedans. Là. Les gens faisaient juste dire comment ils se sont sentis comme êtres humains.
C'était constructif, parce que, là.
Oui, effectivement. C'était vraiment ça parce que venir travailler là en vallée de la Gatineau ou travailler en région, c'est différent que de travailler dans un milieu urbain. Il y a un sentiment de proximité qui nous habite. Il y a le fait de ne pas avoir l'impression d'être traité comme un numéro. Il y a le fait de vivre dans une communauté qui est fière, qui est engagée. Puis depuis la centralisation, ben, on a perdu tout ça. Mmh. Chaque fois que le CISO amène une solution, ça devient notre problème.
J'ai même entendu dire, puis ça m'a jeté à terre, qu'on fait des efforts pour tenter de recruter des gens. Je sais pas à quelle échelle ça se produit, mais qu'on fait des efforts pour recruter des gens. Puis que des fois, quand le CISO se rend compte, « Oh, mon Dieu, cette personne-là, elle travaille bien. On pourrait peut-être la faire s'en venir en ville pour qu'elle vienne travailler, pour combler des trous chez nous. » Je trouve ça épouvantable. Tu sais, on a des besoins, on manque de monde, on essaye de dynamiser le secteur, on essaye, tu sais, la région met tout en œuvre pour essayer de s'en sortir. Puis eux, quand il y a quelqu'un qui fait la job, pouf, ils le ramènent en ville s'ils peuvent.
Oui, puis c'est dommage parce qu'on a l'impression que c'est juste à sens unique. Tu sais, parce que quand on a eu la fusion, on s'était dit, tu sais, à l'époque, il y avait le manque d'anesthésistes, de chirurgiens. Et quand on a eu la fusion, on s'était dit, ben ça va aller dans les deux sens. Dans le sens où, étant donné qu'on est comme affilié avec eux, ben quand on va manquer d'anesthésistes, on aura un anesthésiste de Hall de Gatineau qui pourra venir. Par contre, ils ont rajouté une clause d'un nombre de kilomètres et on est en dehors de ce nombre de kilomètres-là. Donc, l'anesthésiste, le chirurgien n'est pas forcé de venir chez nous. Puis, il y a eu comme plein de clauses comme ça qui se sont passées. Par contre, quand eux trouvent qu'on a un... On lui fait une offre d'emploi. ça lui a décidé de s'en aller, mais évidemment, l'offre est souvent beaucoup plus alléchante en ville.
Je ne sais pas si vous avez le droit d'en parler ou si vous allez vouloir en parler, mais tu sais, on parle des conséquences sur les soins offerts aux patients. Est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'il y a eu des conséquences sérieuses sur des patients qui étaient à l'hôpital? Je ne sais pas si on parle de décès, mais des conséquences sérieuses en raison de ce manque de personnel effectif ou que les gens sont simplement trop épuisés?
Bien, actuellement, je vais te dire, tu sais, je peux juste parler pour moi, hein, quand moi je travaille à l'hôpital, puis qu'est-ce que je fais parce que je veux pas rapporter des choses qui se sont passées de d'autres, là, puis,
ouais.
Mais ce que je peux te donner comme exemple, là, c'est quand moi je travaille à l'hôpital actuellement, là, puis que j'ai un patient, exemple, qui a besoin d'un matelas spécial à la maison, anti-plaie ou quelque chose comme ça, pour permettre au patient d'avoir son congé, puis que j'ai pas d'ergothérapeute qui travaille à temps plein, puis que la travailleuse sociale, ben, est pas disponible parce qu'elle a juste 2 jours ou parce que tout simplement il y en a plus, ben, on a 2 choix. Soit que comme médecin, je me mette à la tâche à trouver un matelas anti-plaie. Ce que Félix-Antoine, j'ai aucune idée où est-ce qu'on achète ça, j'ai aucune idée où est-ce que c'est disponible, je connais pas les équipements, c'est pas mon travail, là. Okay. Je le sais pas. Mais je peux décider de prendre le téléphone, comme je fais, puis de passer 2 heures à essayer de trouver un matelas. Ou je peux dire que c'est pas dans mes tâches, puis que le patient, ben, va rester hospitalisé jusqu'à ce qu'il y ait une ergo qui finisse par arriver dans le portrait.
Fait que de ce que j'en comprends, si le médecin est frais, dispo, a du temps, et c'est une bonne journée, il va peut-être faire l'effort, puis s'il est pressé, c'est, là, je dis n'importe quoi, c'est chicané avec sa femme. Tu sais, c'est pas une bonne journée, il a pas le moral, ben, il fera pas l'effort supplémentaire, puis finalement, c'est à lui que revient la décision de le faire ou non.
Ben, je dis le médecin, mais tu sais, c'est dans tous les secteurs. Ouais. Fait que ça veut dire qu'à chaque fois, là, l'infirmière, là, si le patient il a son congé, mais que dans le fond, on aurait besoin de nous préposer pour nous aider à préparer le patient, puis il n'y en a pas, ben l'infirmière, elle va le faire. C'est comme ça qu'on épuise le personnel. Ouais. C'est parce qu'on est rendu qu'on fait des tâches qui sont pas dans nos tâches, effectivement, mais on en a déjà trop dans nos tâches régulières. Mm-hmm. Fait que c'est pas de pas vouloir passer à moi ou de pas répondre au téléphone. C'est pas une question de ça, là. C'est une question juste qu'à chaque patient, il y a quelque chose de supplémentaire à faire qu'on devrait pas faire.
OK. Écoutez, on pourrait jaser pendant des heures, il me semble que ça serait intéressant, puis les gens en auraient pour il y en aurait pour leur argent là. Malheureusement le temps file, mais écoutez, est-ce que vous avez de l'espoir qu'on arrive à trouver une solution, le projet pilote sur lequel vous travaillez, est-ce que vous avez réellement de l'espoir que ça fonctionne?
Oui, j'en ai, parce que je pense qu'un projet pilote, c'est moins imposant là, comme Mme Lamarche l'a dit, c'est changer la loi, là on est ailleurs, là c'est autre chose. Par contre, un projet pilote, avant, là, l'hôpital de Maniwaki puis la région, on a toujours fait preuve de débrouillardise. On est des gens qui avons toujours eu des beaux projets locaux. T'sais, on a eu de la dialyse, on a de l'oncologie, on a de la pédiatrie sociale. On a toujours été capable de développer puis de faire preuve d'énormément de débrouillardise. On est capable. Ce qu'on a besoin, c'est de retrouver de l'autonomie. C'est ça qu'on demande, dans le fond. Donnez-nous de l'autonomie, arrêtez de nous gérer à l'extérieur, laissez-nous nous gérer nous-mêmes, puis on va vous prouver. Fait que le projet pilote, c'est ça mon espoir. C'est d'être capable d'avoir plus d'autonomie, puis d'être capable de démontrer au gouvernement que les milieux en région, on est capable. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, nous, là, à Maniwaki, là, on n'est pas la périphérie. Laval, c'est la périphérie de Montréal. Wakefield, c'est la périphérie de Hall-et-Gatineau. Maniwaki, vallée de la Gatineau, on est rural. On peut pas être géré de la même façon. Mmh. Puis on a besoin d'avoir cette autonomie-là, puis c'est ça qu'on demande. Puis ça va nous permettre, de, comme projet pilote, après ça, de leur démontrer que c'est très efficace. Dans tous les pays, là, quand il y a eu de la centralisation, ça, c'est comme si le balancier va trop loin à un moment donné, puis il faut le ramener. Puis la façon de ramener, bien, c'est peut-être en faisant des projets pilotes comme ceux-là, puis de leur démontrer notre débrouillardise.
Ben écoutez, docteur Audrey Bertrand, je le disais d'entrée de jeu, vous êtes médecin de famille dans la vallée de la Gatineau. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je pense que c'est nécessaire que des gens de l'interne, et vous le disiez vous-même, là, prennent la parole, dénoncent et n'hésitent pas à le faire. C'est comme ça qu'on va faire changer les choses, qu'on va peut-être mobiliser des troupes pour pouvoir nous aider justement à obtenir gain de cause dans ce dossier-là. Merci beaucoup d'avoir pris, de prendre cette initiative-là. Parmi tout le travail que vous avez déjà à faire, vous en avez déjà beaucoup de pain sur la planche, mais je pense que là, c'est nécessaire. Merci beaucoup.
Hey, merci beaucoup, puis je suis confiante que la population va être avec nous. Merci beaucoup, Félix-Antoine.
Merci. Et non, pas inquiet pour ça, que la population sera là, c'est nos soins, c'est notre famille, c'est nous, hein? C'est nous, je dis notre famille, nos oncles, c'est moi aussi, c'est mes enfants, c'est, hein, vous comprenez, c'est directement nos services dans notre population, chez nous, nos employés, c'est nos médecins, c'est notre monde. C'est pas facile, puis bon, ben heureusement, il y a des gens qui le dénoncent, parce qu'on dit depuis 2015, on a des politiciens qui nous disent que c'est pas la bonne chose, puis que le son de cloche qu'ils entendent, c'est pas bon, mais je trouve ça intéressant de voir que là, ça vient de l'interne, des gens qui prennent la parole, qui dénoncent. Ça risque de mettre un peu plus de pression sur le 6 de l'Outaouais. Faudrait les avoir d'ailleurs en entrevue s'ils acceptent notre invitation, parce que ça, c'est pas dit qu'ils vont le faire, hein? Même quand ça vient des médecins, des fois, qui demandent à avoir des rencontres, ils n'ont peut-être pas toujours les disponibilités pour le faire. Ben, ça, c'est une autre paire de manches. Bref, le temps file. Écoutez, je gruge du temps dans l'émission. Malheureusement, on devra... Ben, en fait, non. Écoutez, on va y aller tout de suite. Les nouvelles de Cogeco qui s'en viennent dans un instant. Et il s'en suivra une entrevue réalisée par Louis-André Jalbert avec le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, sur la situation des places en garderie dans la région. Et on parle de la vaccination des 12 à 17 ans qui est débuté depuis hier au Québec. On en jase avec le directeur général du Centre de services scolaires des Hauts-Bois de l'Outaouais dans les prochaines minutes. Restez des nôtres.